La 17e édition de MuTech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org.
Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le Bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le Bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le Bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir et bienvenue à La Photomédia. Cette semaine à l'émission, nous parlons de l'évolution de la gauche avec Charles Lemieux, Francis Suot et Sarah Thibault. Vous aurez compris au timbre de ma voix que l'animation sera pas faite aujourd'hui par Émilien. Cette semaine et la semaine prochaine, c'est moi, Camila Rodriguez-Sea, l'habituelle régisseuse et chroniqueuse qui se chargera de l'animation, pendant qu'Émilien visite l'Europe. Commençons tout de suite avec Charles. Cette semaine, tu nous parles des orphelins politiques.
Entre autres, oui. C'est quoi ça, les orphelins politiques? En fait, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, mon Dieu, son nom est vraiment long, qui, en fin 2014, a lancé un livre intitulé « Les orphelins politiques », dans lequel il lançait une thèse quand même intense. Les résultats électoraux de 2012 et 2014, où près de 60% des Québécois et Québécoises auraient voté à droite, selon lui, sont le résultat du fait que le peuple ne se reconnaît pas dans les partis actuels. Bon, selon lui, les gens n'aiment pas la corruption libérale, le discours souverainiste approximatif du PQ et l'improvisation des autres partis. Il voudrait alors, pour remédier à ce problème, créer un nouveau parti de centre-gauche, mais pas souverainiste, et il a exposé ainsi sa thèse que la majorité des gens étaient des orphelins politiques dans le livre du même nom. C'est quand même intense comme thèse.
Quand même, oui.
Dire que si tu faisais un parti avec tes idées, 60% de la population voterait pour toi, faut quand même le faire. Bon. Plusieurs chroniqueurs qui ont parlé des orphelins ont mentionné que ce creux-là, le centre-gauche fédéraliste, allait bientôt être rempli par le NPD Québec. C'est probable, mais alors c'est quoi la pertinence de ce groupe d'orphelins, surtout alors qu'ils ont lancé le mouvement du même nom à la fin avril devant 300 sympathisants? 300 sympathisants, on est loin de 60% de la population.
Ouais.
Bon. D'ailleurs, je me permets de mentionner l'ironie de la situation. Paul Saint-Pierre Plamondon a annoncé au jour du même, ce matin, c'était un article de la presse à 7h50, qu'il se lancerait dans la course à la direction du PQ. Drôle d'idée quand même, car la première ligne de la présentation de ton livre, c'est que les gens sont dégoûtés du PQ. J'imagine qu'ils pensent pouvoir rénover la bâtisse. Il y a de la job à faire.
Ouais. Mais alors, c'est quoi, Charles, la pertinence de ce groupe-là? Est-ce qu'il va disparaître?
Aucune idée de ce qui va advenir de ce groupe pour le futur, mais je pense quand même que l'idée de base est bonne. Beaucoup de gens ont de la misère à se reconnaître dans les idées d'un parti, et encore plus de gens votent stratégique contre un parti et non pour un parti. C'est ce qui explique probablement pourquoi au Québec, le PQ a encore une base électorale si solide année après année. Même chose pour les libéraux. Il y a aussi des gens qui ne se reconnaissent pas dans les partis par manque d'intérêt. Croyez-moi, j'ai fait du porte-à-porte pour certains partis, et j'en ai vu plusieurs. Mais le problème aussi, c'est qu'avec le mode de scrutin actuel, il y a peu de place pour un parti émergent. Ça représente un gros risque quand même de voter une fois aux 4 ans pour un nouveau parti, quand t'es vraiment pas certain des résultats qu'il peut avoir, surtout lorsque la menace de victoire d'un parti qu'on déteste plane. Et les citoyens peu intéressés par la politique votent pour le parti qui a le plus de chances de défaire celui qu'ils n'aiment pas. Et en plus, si on décide de voter pour un parti qu'on aime bien, mais qui représente nos idéaux, si celui-ci récolte que peu de voix, il n'est pas entendu dans la sphère politique, alors on a voté pour... pas finalement avoir nos idées représentées. C'est pourquoi il y a plusieurs gens qui décident de voter pour un parti qui représente moins leurs idéaux, mais qui a plus de chances de gagner. Ça explique d'ailleurs pourquoi peut-être M. Saint-Pierre Plamondon a décidé de se battre pour la chefferie du PQ.
Exact, puis c'est ça toute la pertinence du scrutin proportionnel, non?
Voilà. Mais la solution, la vraie, comme Camilla m'a volé mon punch, ça serait un mode de scrutin proportionnel mix, ou même proportionnel. Ça reste à débattre. Mais de cette façon, les partis ayant récolté des voix pourraient faire des coalitions temporaires pour faire passer certains projets de loi. Évidemment, des projets qui sont en lien avec les désirs de leur base électorale. D'ailleurs, l'idée du scrutin proportionnel mix revient après chaque élection, et cette idée prend de plus en plus d'ampleur. En date du 1er mars dernier, la CAQ, le PQ et QS étaient d'accord pour un scrutin proportionnel mix. Or, malgré leurs 56% des voix récoltées, ils n'ont que 44% des sièges à l'Assemblée nationale. Donc, le futur nous dira ce qui va en advenir.
Mais les partis, quand ils sont... Le problème, c'est qu'avant qu'ils soient au pouvoir, ils sont pour le scrutin proportionnel, mais quand ils arrivent au pouvoir, ça tombe, ça
non,
part de
là,
leur agenda.
Ils sont au pouvoir, puis ils sont pour, mais ils ont seulement 44% des sièges.
Mais non, mais je veux dire, on est dans un gouvernement libéral majoritaire, non?
Exact.
Voilà.
Voilà. Au fédéral, l'idée a fait un peu plus de chemin. Le Parti libéral de Justin Trudeau s'est fait élire en promettant de changer le mode de scrutin. Puis le NPD aussi est en faveur. Ils sont d'ailleurs en négociation en ce moment sur le projet avec tous les autres partis. J'ai bien hâte de voir ce que tout ça va donner.
Merci. Moi aussi, Charles, merci beaucoup.
Pas de problème.
Francis, tu vas nous parler de ton côté de l'évolution de l'utilisation d'expressions dites de gauche dans les médias.
Effectivement, Camilla, en réfléchissant à mon sujet pour l'émission d'aujourd'hui, je me suis demandé comment des expressions associées à la gauche, qui étaient il n'y a pas si longtemps utilisées de façon un peu péjorative, sont devenues plus couramment utilisées dans les médias. Donc, en bon critique des médias, je dirais que les médias ont longtemps contribué à stigmatiser un peu le discours de gauche, mais que tranquillement, des expressions comme néolibéralisme, austérité, ou encore lorsqu'on parle du 1%, ces expressions-là commencent à se frayer un chemin et à avoir une connotation moins négative. Je vais utiliser l'expression « gauche », même si je l'ai particulièrement. C'est souvent utilisé par la droite et la gauche modérée pour décrire une mesure X ou une lutte Y. Bon, pourquoi je l'ai? Je trouve ça un peu méprisant et réducteur des arguments de gauche, mais bon, au fin de l'exercice, on va essayer de comprendre comment les médias rendent « gauche » ou non certaines expressions.
Donc, par exemple, d'utiliser des expressions comme néolibéralisme ou austérité, ce serait gauche?
Ouais, ça l'était en tout cas il y a quelques années, et ça l'est encore un peu aujourd'hui aussi. Je me rappelle, au printemps 2012, on militait contre la hausse des frais de scolarité dans mon cégep, et l'année suivante, au printemps 2013, l'AC a lancé une campagne contre l'austérité. À ce moment-là, d'autres associations étudiantes nationales plus modérées, pour ne pas les nommer... disant en coulisses que c'était gauche comme campagne, que ça manquait de pragmatisme. Eux préféraient participer au sommet sur l'éducation, par exemple, ou militer pour la survie des cégeps en région. Bref, ils voulaient juste pas être associés à une lutte contre l'austérité. Eh bien, cet automne, à peine 2 ans plus tard, le Front commun intersyndical, qui regroupait plusieurs centaines de milliers de travailleurs, a fait campagne avec le slogan « Refusons l'austérité ». Donc le terme « austérité », qui était péjoratif il y a à peine quelques années, est devenu couramment utilisé dans les médias. Au grand dam du Parti libéral, d'ailleurs, qui essaie de nuancer son action en utilisant des expressions comme « rigueur budgétaire » pour justifier ses coupes dans les programmes sociaux.
C'est sûr que ça sonne mieux.
Ouais, c'est... oui.
L'utilisation de l'expression « austérité » dans les médias semble donc faire plus de mal à droite qu'à gauche.
Oui, c'est ça qui est en train d'arriver, on dirait. Puis en parlant d'expression qui avait une connotation péjorative, il y en a un autre qui était et qui est encore assez diabolisé dans les débats politiques, c'est néolibéralisme. Donc par exemple, l'Institut économique de Montréal, l'IEDM, qui est reconnu comme étant plus à droite, dira probablement jamais que les politiques d'austérité du gouvernement libéral sont néolibérales ou que le gouvernement lui-même est néolibéral. Ça serait trop gauche comme expression. D'ailleurs, dans un billet que l'IEDM a publié sur son blog, elle dit du terme néolibéralisme qu'il s'agit, et je cite, d'un terme péjoratif utilisé par les étatistes de tous horizons comme un homme de paille sur lequel on projette divers anathèmes.
Et nous, dans nos cours de sciences politiques, si on nous a appris le terme néolibéral, c'est probablement parce qu'on étudie à l'UQAM, j'imagine.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, on peut dire que l'IEDM aime pas vraiment que le terme néolibéralisme soit utilisé. Mais l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui est plus à gauche, lui va utiliser le terme sans complexe et avec raison probablement, pour parler du climat politico-économique ambiant. Donc, l'IADM, qui est, comme je disais, traditionnellement à droite, fait partie de ceux qui stigmatisent dans les médias le discours de gauche, et les partis politiques de droite le font aussi, tout comme les grandes corporations et les médias.
Penses-tu que la tendance est en train de changer, Francis?
On parlait du 10e anniversaire de fondation de Québec solidaire. Je pense qu'un parti comme Québec solidaire, qui est capable de tenir un discours de gauche relativement décomplexé, et donc de parler d'austérité et de néolibéralisme sans avoir peur de s'aliéner une partie de son électorat, et même de critiquer le 1% sans que ça soit trop négativement perçu dans les médias, a sans doute permis de tirer un peu la couverte à gauche.
Bien dit, Francis, merci. on va se retrouver tout de suite après la pause musicale. On va écouter 10$ de Fred Fortin de l'album Ultramort.
Ton cœur est un robot qui crie sa soif. Ton nom part en bocal avant de te ramasser avec un flat. Faudrait que tu passes au stade. Ton histoire se résume en un trait noir de goudron de carbone. Tu laisses dans un nuage qui grimpe dans les airs le monde qui s'étonne de te voir toujours.
De retour après la pause musicale, je passe maintenant pour terminer avec les chroniques le micro à Sarah qui a choisi de nous présenter les avancées qu'ont connues les mouvements féministes québécois dans la dernière décennie. Sarah.
Oui, exactement. Bien, En fait, en ce qui concerne les avancées dans les mouvements féministes au Québec au cours des 10 dernières années, je pense qu'elles peuvent être constatées dans la même foulée que les avancées pour les mouvements féministes transnationaux de manière générale. Les transformations du mouvement féministe du 21e siècle peuvent beaucoup se distinguer, entre autres par la prise de conscience et la prise en considération de la diversité des réalités qui sont vécues par les femmes en fonction de leur statut socio-économique, mais aussi de leur origine ou de leur identité sexuelle.
Vraiment ce qu'on appelle la troisième vague dans le fond du féminisme.
Oui, exactement. La troisième vague est considérée comme commençant à peu près dans les années 70. Puis là, ça a continué à se développer.
OK, oui.
Donc, la troisième vague est relativement vieille quand même.
Elle est vieille, mais à quand la quatrième, alors?
Exact. Vive la quatrième vague. Donc, c'est ça. L'introduction des aspects de racisation puis l'étude des genres dans la manière d'aborder le féminisme vont permettre depuis assez peu longtemps de dépasser la question d'inégalité pour envisager une approche plus intersectionnelle qui prend en considération le fait que toutes les femmes vivent pas les discriminations de la même manière puis qu'elles évoluent dans plusieurs systèmes de pression différents. Cette nouvelle prise de conscience-là permet, selon moi, une sensibilisation de la gauche féministe par rapport au fait que c'est plutôt restrictif de prétendre qu'il y ait une seule voie possible dans la lutte aux inégalités.
Oui, puis on peut quand même dire que les dernières décennies ont été marquées par l'apparition de nouveaux courants de recherche en matière de féminisme et d'études de genre.
Oui, tout à fait. Les gender studies qui se sont développées, elles, pas mal avant le 21e siècle. Par contre, là, on parle plutôt des années 80. Elles ont été à l'origine de plusieurs courants de recherche qui se développent beaucoup aujourd'hui, puis qui aident à cerner les différents types de domination, d'inégalité ou d'exclusion systémique pour mieux les combattre par la suite. Qu'il soit question des men studies qui s'attardent plus spécifiquement à la construction du masculin ou de la virilité, aux gay and lesbian studies, puis évidemment aux queer studies. D'ailleurs, on pourrait dire que les avancées puis les luttes menées par les mouvements queer ont aussi beaucoup aidé le mouvement féministe à s'affranchir d'une vision binaire de la conception des genres. Ça a permis de sortir d'un cadre d'analyse super rigide qui acceptait seulement de concevoir deux types d'identité pour l'individu, donc évidemment le masculin ou le féminin, ce qui exclut une énorme partie des gens qui subissent des discriminations liées à leur genre.
Reste que ce qu'on pourrait appeler la troisième vague du féminisme est tout de même assez critiquée de la part de certains membres des générations précédentes.
Oui, tout à fait. Cette nouvelle tendance-là à mettre l'accent un peu plus sur l'individualité dans la lutte, c'est souvent critiqué, mais à mon avis, ça reste définitivement une ouverture à la différence qui permet une avancée significative pour le mouvement d'émancipation des femmes. Parce que selon moi, le fait de quitter une approche féministe unitaire qui se veut universelle, sans bien sûr pouvoir l'être véritablement, ça laisse place à un féminisme beaucoup plus éclairé puis beaucoup plus inclusif.
Oui, puis de la même manière, par exemple, la lutte contre l'antiracisme, ça me fait penser avant, on était dans une visée vraiment qui disait « on est tous pareils, on est tous égaux mm-hmm. », tandis que maintenant, on essaie de mettre le doigt sur les différences parce que ces différences-là entre les personnes font que les oppressions qu'elles vivent au jour le jour changent.
Puis... Tout à fait. Puis ça affaiblit pas le mouvement pour autant.
Exactement. Puis toi, de quelle manière est-ce que tu dirais que ces tendances-là se sont manifestées au Québec?
Mais dans les dernières années, on a pu constater que plusieurs événements, dans le fond, ont eu un rôle majeur dans la conception qu'on avait au Québec de ce que devrait être le féminisme. En lien direct avec ce dont je parlais tout à l'heure, l'épisode des débats autour de la Charte des valeurs en 2014, ça a été une démonstration intéressante du clash qui existe selon moi aujourd'hui entre certaines conceptions nationalistes puis partisanes du féminisme, puis une vague nouvelle qui opte plutôt pour un féminisme ouvert puis inclusif, qui choisit de mettre au centre de sa lutte l'abolition de tous les différents types d'oppression plutôt que des questions identitaires ou nationales. À mon avis, s'il y a une avancée véritable pour le féminisme au Québec dans les 10 dernières années, c'est beaucoup plus dans cette tendance-là qui se fait de plus en plus marquée de choisir de lutter en acceptant puis en célébrant la différence, la pluralité, la diversité des nouvelles mouvances, tout comme tu disais tout à l'heure, dans le fond. Puis sinon, évidemment, il y a le procès de Jan Gomeshi qui a enclenché au Québec la vague d'agressions non dénoncées en novembre 2014, qui était elle-même inspirée du mot-clé « Been raped, never reported », suite qui a été enclenchée au Québec suite au renvoi de l'animateur, ce qui a permis, dans le fond, de remettre en question de remettre sur l'ordre du jour la question de la violence sexuelle puis de la culture du viol. Donc, en gros, je serais tentée de dire que si c'est possible d'être particulièrement choqué du sexisme structurel au Québec, c'est quand même rassurant de voir les avancées puis le renouveau du mouvement féministe.
Absolument. Merci, Sarah. On rentre maintenant dans la période plus libre de discussion de l'animation. Donc, pour commencer cette discussion-là, je vous demande à tous autour de la table vos impressions par rapport au phénomène des orphelins politiques. Francis?
Tout d'abord, moi, j'ai été assez surpris de voir que, justement, Paul Saint-Pierre Plamondon se lançait dans la course à la direction du Parti québécois ce matin.
C'est vraiment ironique,
oui. Oui, c'est très ironique, justement, parce qu'il se disait d'un mouvement d'orphelins politiques. Puis là, ça a été quand même assez rapide pour qu'il se décide à se lancer dans la course, parce que, justement, je pense qu'on se lance pas dans une course à la direction d'un parti sans une préparation préalable. Puis, donc, je pense que sa réflexion a été entamée depuis un bon moment déjà, puis qu'il a saisi l'occasion. Fait que j'ai hâte de l'entendre là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il a pas vraiment donné d'entrevue, je pense. Mais ça semble être assez opportuniste comme move.
Moi aussi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner comme entrevue, qu'est-ce qu'il va répondre à ça, parce que pour quelqu'un qui critiquait le PQ dans un gros livre de 200 quelques pages, puis que là je vais me lancer dans la course, je trouve ça un peu bizarre.
Exact,
certains vont dire peut-être que c'est de l'opportunisme.
Oui, mais d'ailleurs, en commençant par vous deux, je serais d'accord.
Oui.
Mais c'est vrai que, j'imagine, moi, son discours de défense, ça va probablement être quelque chose qui va tourner autour de « oui, mais je vais réformer le PQ ».
C'est sûr, c'est sûr.
Sarah?
Mais je sais pas, moi de manière générale, bien franchement, j'ai l'impression, ça m'étonne pas tant que ça en fait de constater que il y a une tendance de plus en plus grande à vouloir être orphelin politique, ou on l'appelle comme on veut là, mais à cette tendance là à la non-partisanerie. Je pense que de manière générale dans le milieu militant de la nouvelle gauche au Québec, on voit beaucoup il y a une grande tendance à vouloir lutter de manière générale pour des luttes féministes ou altermondialistes ou anticapitalistes, sans vouloir avoir un cadre normatif restrictif que pourrait être un parti politique.
Exactement, parce qu'on voit que les partis politiques ont de moins en moins de membres, donc l'implication se fait par les mouvements plus alternatifs plutôt que dans les cadres traditionnels des partis politiques. Francis?
Oui, puis moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que justement, ce mouvement citoyen-là, les orphelins politiques, ça rejoignait beaucoup de gens, puis ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être être un peu désabusés de voir que le leader du mouvement ou la personne qui a instigé le mouvement. Puis, tu sais, je sais qu'une personne fait pas un mouvement, mais dans ce cas-ci, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon avait quand même une bonne influence sur son mouvement. Je pense que les gens vont être un peu désabusés de voir qu'à la première occasion, comme cet orphelin politique-là les a comme peut-être abandonnés, si on veut. Je pense que ça va faire perdre beaucoup de crédibilité à ce mouvement-là. Puis c'est un mouvement quand même qui avait, tu sais, qui jouissait d'une bonne couverture médiatique, comme qui était presque, en tout cas, juste à vue de nez comme ça, mais tu sais, équivalente par exemple à un parti comme Option Nationale, même si c'était même pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen, comme c'était assez remarquable la couverture qu'il y avait.
Probablement même plus de couverture qu'Option Nationale à certains points.
Oui, mais Option Nationale en ce moment, puis Option Nationale à ses débuts, ses deux histoires aussi. Là.
Mais c'est que ça a quelque chose de rafraîchissant aussi d'un point de vue médiatique, un mouvement comme celui-là. Je veux dire, ça sort un peu des normes.
Oui, ça rassemblait des gens de la gauche, de la droite, il y avait des souverainistes, des fédéralistes. D'ailleurs, Charles, je sais pas si tu le sais, mais il me semble que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était pas le plus grand des souverainistes, comme je suis même pas sûr qu'il se disait souverainiste quand il était...
Non. Bonne question. Non,
en tout cas, j'ai lu une analyse aujourd'hui qui disait que c'est rafraîchissant de voir que des non-souverainistes pouvaient se joindre au PQ, mais je sais pas si lui-même en était un, mais...
Dans son livre sur l'opportunisme politique, il disait, en fait, de ce que j'ai lu, là, sur les plusieurs articles que j'ai lus sur le sujet, sur tout ça, il disait qu'il fallait mettre la question de la souveraineté vraiment de côté pour gérer d'autres choses avant.
Charles, t'as-tu vraiment, tu viens de dire son livre sur l'opportunisme politique?
peut-être.
C'est le meilleur lapsus. Oh mon Dieu.
Oups. Mais oui, c'est ça. Fait qu'il disait qu'il fallait mettre la question de la souveraineté de côté comme pendant une certaine période de temps, pour gérer d'autres enjeux. Totalement le contraire que ce que Option Nationale fait d'ailleurs.
Oui, mais c'est vrai que la niche au Québec de gauche ou gauche modérée, fédéraliste, est pas vraiment remplie. La gauche a toujours été souverainiste au Québec. Même Québec solidaire, on dirait qu'est-ce qu'on veut, mais reste que c'est un parti qui se veut souverainiste. Donc,
ça a d'ailleurs été la première chose qu'ils ont voté.
Quand ça?
Ben, dans leur congrès de fondation.
On est bien informés.
Ben oui. C'est le premier point. C'est leur premier point. Ils disent que peu importe leur plateforme, l'élément le plus important, c'est que si on a la souveraineté, on peut faire toutes ces choses-là. Puis sans la souveraineté, on n'a pas les moyens de tout faire les réformes qu'on veut faire.
Mais c'est une vision assez différente de la souveraineté que, par exemple, le Parti québécois, parce que Québec solidaire voit la souveraineté comme un moyen d'atteindre
et
tous les objectifs.
Voilà.
Exactement.
Et non pas une fin ultime comme le PQ. Tout à fait.
Exactement. Mais ça va être intéressant. Puis je regardais ça dans, à la radio, j'écoutais ça, on disait en fin de semaine que j'ai perdu mon idée. J'ai perdu.
OK.
OK. Bon, on va terminer sur cette drôle de conclusion.
Wow.
J'espère que vous avez plus d'idées, vous et nos auditeurs, et que vous pourriez nous les partager.
Les auditrices aussi.
Ah oui, les auditeurs et auditrices, là.
Donc, j'espère que les auditrices pourront nous partager leurs pensées via Facebook. On les encourage et on vous encourage à aller aimer la page. Donc, c'était, en conclusion, Charles Lemieux, Francis Huot et Sarah Thibault aux chroniques. On a aussi Alexandre Bachalani qui a fait la régie cette semaine. C'était Camila Rodriguez CA à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine et on se laisse en chanson avec Fill in the Blank de Car Seat Headrest et de l'album Teens of Denial. À la semaine prochaine. Bye! It took me a long time to figure out I don't know what I want.
today.